Salut les meilleurs, et même les moins bons, il n'y a pas de raison. Bienvenue dans la bande originale spéciale été. Au programme d'aujourd'hui, Arnaud Ducret, Thierry Lhermitte, Asia Erzich, Shane Boumedine, Camille Chiamou, François Vincentelli, Kyron et la bande au très très grand complet. Le meilleur de la BO, c'est parti! Bel été à tous les amis.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Quand je pense à vous, Arnaud, je pense à l'un de vos happenings. C'était au Morning Live.
Ouais. En fait, on va faire une tournée donc dans toutes les écoles parce que moi j'adore les enfants. Je suis fan des gamins.
Ouais.
Moi j'en ai jamais eu, hein, heureusement. Mais je suis fou des gosses parce qu'en fait, voilà, j'ai fait 8 ans de centre aéré.
Ouais.
Et comme Michael Jackson, hein, je suis un homme de contact aussi, donc c'est pour ça. Et moi j'ai toujours rêvé de mettre dans la peau de Michael Jackson, qui lui d'habitude c'est lui qui est dans la peau des autres. I stole a mag, I stole a bee, got to go to Cena, I scared my dad, I stole a bee, scared it all.
C'est déjà drôle à écouter, mais à voir, c'est encore mieux.
Le yaourt, il est magique quand même, faut le dire.
Non, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris ce qu'il chante. Non, mais c'est une réalité. Il disait, gonna make, tu sais, dans Make That Change, Men in the Mirror, il disait, gonna make a difference. Et moi, j'entendais, gonna make a tickets. Et je disais n'importe quoi. Et je n'ai jamais compris ce que chante
en
ce
En tout
mec.
Cas, vous avez gardé dans vos spectacles et le côté human beatbox et la danse aussi que vous maniez bien.
Ouais. Là, c'est Thierry Jackson, donc ce personnage que vous avez rendu culte quelque part avec ses happenings au Morning Live, c'était sur M6. Ouais. Vous chantez aussi, hein, j'ai vu dans votre bio que vous étiez choriste de Nana Mouskouri, par exemple.
Non, mais j'ai fait une fois Nana Mouskouri, tout le monde me dit ça.
Mais vous chantez.
Non, j'ai fait Jim Manson surtout. Bah, le mec fait que.
Jim Manson, je vois.
Tu vois, d'ailleurs, quand tu vas dans une église, parce qu'on faisait du gospel et que tu chantes Faisons l'amour avant de nous dire adieu, tu sens que le curé, il a du mal, là.
Non, les images qu'on vous ressort, c'est quand le micro n'est pas branché.
J'ai revu ça, là.
France 3 ou
un truc comme ça, c'était Télépomme et tout. Mais après, c'est vrai que ça m'a vachement formé pour plein de trucs.
Évidemment. On est obligé de savoir improviser dans ces cas-là.
Mais la suite devrait vous plaire davantage parce qu'en fait, quand je pense à vous, je me dis qu'avec le parcours que vous avez, je pense un peu à un genre du jardin, parce que avec votre rôle récurrent à la télévision dans Parents en mode d'emploi, vous êtes devenu hyper populaire. Je lisais une interview où vous disiez, voilà, je me promène dans la rue, je vais tomber sur un père de famille, je vais tomber sur des petits jeunes, on me reconnaît, donc je touche...
Ce sont des millions de gens
tous les
soirs.
Voilà, j'ai 3,5 millions de personnes chaque soir, donc forcément, vous avez accédé à une forme de notoriété, un peu comme Jean Dujardin à l'époque de Un gars, une fille avec Alexandra Lamy. Vous avez une formation un peu hors des sentiers battus, vous aussi. Est-ce que vous vous sentez un petit peu différent des autres camarades comédiens à peu près dans votre âge ou sur les mêmes films que vous dans le parcours
dans le parcours je sais pas, après je connais pas le parcours de tous les autres, mais disons que j'ai eu la chance très jeune, je disais voilà, de faire de la comédie musicale et tout ça. C'est vrai que j'ai fait des scènes c'est une troupe semi-amateur, mais on faisait quand même des grosses salles. J'ai fait des zéniths et tout, et ça m'a permis, quand j'ai fait Spamlot par exemple, la comédie musicale des Monty Python qui était mis en scène par Pef,
tu as vu ça, formidable. Deux fois
Pef par exemple me disait qu'il avait un mal fou à trouver mon rôle de Galahad que j'ai fait, parce qu'il n'arrivait pas à trouver un mec qui sache chanter et qui joue la comédie vraiment, parce qu'il y avait des vraies scènes de pure comédie avec la rythmique comédie. Mmh. Et donc ça, si je n'avais pas eu cette formation tout gamin, c'est une chance inouïe. Et j'ai plein de copains à moi qui sont comédiens, qui sont très bons comédiens et qui ne savent pas chanter. Et c'est vrai que ça, je ne sais pas si c'est différent des autres, mais j'ai eu cette chance en tout cas que la vie m'a offerte de pouvoir. Non, mais c'est vrai.
Est-ce que la musique aide au jeu, c'est-à-dire à déjà avoir une oreille pour savoir si c'est juste ou faux? Est-ce que ça aide à la tonalité quand on joue aussi?
Grave. Et puis de savoir placer sa voix, il y a plein de choses comme ça. Comme j'adore le doublage aussi, ça je dois beaucoup ça à la chanson, d'avoir appris
le rythme aussi, les silences pour une chute.
Les silences, la plupart des je trouve que comme Jamel ou tu prends Franck Dubosc ou Jean Dujardin d'ailleurs, ont une rythmique très musicale, hein. Ça sent, hein, tu l'entends, hein. Moi des fois j'entends une vanne de Franck ou de Jamel et je me dis en voyant, je dis là je reprendrai là, il reprend là au même moment. Donc ça veut dire que c'est le rythme.
Il faut le tempo, quoi.
Ouais, il faut le tempo, et ça c'est très musical.
Et ça, vous continuez à développer en parallèle de ce que vous savez déjà faire, d'autres compétences, vous disant que plus j'en maîtrise et plus des rôles particuliers vont s'ouvrir à moi.
Les Américains font beaucoup ça d'ailleurs. Souvent, entre les films,
ils apprennent quelque chose.
Nous les Français, on n'est pas comme ça. Mais j'aimerais bien reprendre la batterie, parce que j'ai fait de la batterie, par exemple, musicalement, j'aime beaucoup la
batterie. Vous êtes gaucher.
Oui.
Je vais le cocher. C'est-à-dire que quand on est gaucher et batteur, on arrive pour faire un bœuf, il faut remonter, démonter la batterie. C'est pas prête-moi ta guitare, je vais jouer. C'est pas Jimi Hendrix qui était gaucher, mais jouer avec des guitares accordées pour droitier. Ouais. C'est-à-dire la note aiguë en haut au lieu de l'avoir en bas. Là, le batteur, je pense à Bruno Solo, chaque fois qu'il y a un bœuf,
il adore
énervé. Oui, il adore faire des bœufs, sauf qu'il faut démonter toute la batterie.
Mais non, il est nul, il a qu'à jouer dodo. Ah ben Bruno, il est pas fin, je te le dis, moi. Bon, bref, alors revenez à moi, là.
Parlez de moi, il y a que ça qui m'intéresse.
Non, mais batterie, je sais pas, la danse, autre.
Ouais, la danse, oui, la danse, ouais, j'adore.
Mais continue à développer.
Ah, oui.
Parce que ça, parce qu'on
propose des comédies musicales, on m'a proposé Chicago, là, on m'a proposé, ils veulent monter Lucky Luke, là, ils m'ont proposé peut-être faire cheval, non, de faire.
Rentre en plan.
Ouais. Donc, ouais, voilà. Mais moi, demain, on me propose une comédie musicale, comme Chicago, et j'ai le temps de le faire. J'ai le temps de la faire, je la fais, ouais, ça, c'est clair. C'est un truc, moi, j'adore ça, quoi. Et puis, comme maintenant,
c'est votre épouse qui vous aide dans les chorégraphies.
Alors c'est la mère de mon fils. Qui, oui.
Pardon.
Je vous en prie.
J'ai pas vu la famille civile.
Qui m'a énormément aidé sur le spectacle, qui m'a aidé sur plein de choses pour le spectacle et qui m'aide encore d'ailleurs, qui me donne son avis sur des trucs. Donc c'est chouette, toi.
Ouais. Vous intéressez, vous demandez beaucoup d'avis à d'autres personnes.
Ouais. Pour moi, c'est la base de c'est la base de la longévité. C'est-à-dire que c'est ça qui est dans ce métier qui est assez bizarre, c'est qu'il faut être, comme vous le savez aussi, Nagui, il faut être sûr de ce que tu veux, être persuadé de ce que tu as envie, te dire voilà, c'est ça, je pense, qui est bon, mais il faut écouter aussi les autres. Ouais. Parce que je pense que quand tu n'écoutes plus, il y a des exemples, je vais pas donner les noms, mais tu sais qu'il y a des mecs qui écoutent plus, et ils vont droit dans le mur, quoi.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Allez, tout le monde fait la chenille.
Le fléau des Antilles.
Mais c'est antillais, tu peux pas le nier, ça.
Non, on va pas dire que c'est un antillais.
C'est vrai? C'est une parodie de musique antillaise?
Mais ils chantent pas en créole. C'est du français, ça.
Oui, mais la musique, le tempo.
Non, mais tu sais, quand t'es antillais et que t'es dans un mariage, une fête, n'importe laquelle, et que
c'est Francky Vincent.
Voilà, t'es tranquillement assis et tout d'un coup, il y a le DJ qui lance ça. Tu peux être sûr que tu vois absolument tous les blancs métropolitains qui cherchent, le mec qui a le tamac, toi, viens, on va danser le zouk. Et tu danses ça avec Tata Josette.
Mais ça va, on est chez de mamie.
Je te rassure, quand il y a Khaled qui passe, on regarde les
Au bout d'un moment, ça pèse. Donc on en parle entre nous, on se dit non. Kassav, Malavoie, d'accord, pas la compagnie créole.
Bah Kassav, ils reviennent quand ils veulent. Hein. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas d'album.
Voilà.
Mais alors, voilà, dans
83, 84, pourquoi vous écoutiez ça,
Non, parce que quand moi, NBI 83, 84, vous imaginez bien que j'ai aucun souvenir de ce que j'écoutais à cette époque-là. Donc j'ai regardé sur les charts qu'est-ce qu'ils jouaient. Et je me suis dit, la compagnie créole, parce que je trouvais que c'était un peu élitiste, la musique à France Inter. Je me suis dit, il faut un petit peu élargir le public. Et allons-y, la compagnie créole. Vous allez voir la suite aussi.
On vous retrouve en 83, 84, Thierry, dans La femme de mon pote, de Blié. Ouais. Dans Les Ripoux, aussi, de Claude Zidi. Ça, c'était en 84. Et en fait, à cette époque-là, vous avez écrit 7 pièces, 3 films avec les Bronzés, avec le Splendide.
Oui, le Splendide, ouais.
Mais vous auriez pu continuer à travailler avec le Splendide, mais du coup,
c'est pas moi qui suis parti, c'est tout le monde. On avait
votre dose
ensemble pendant 10 ans, à écrire tous les jours, à jouer tous les soirs, à faire ces films et ces pièces. C'était le moment de se séparer. Voilà.
Et puis on refuse pas ni Blié ni Zidi, j'imagine. C'est compliqué quand on a deux réalisateurs comme ça qui ont marqué leur époque.
Oui, c'était super. C'était d'abord Zidi. J'étais super flatté de tourner avec Philippe Noiret. Ça foutait un peu les jetons, mais on est devenus potes immédiatement. Je me suis retrouvé dans la même situation un peu avec Ryan Bensetti là pour la finale. Bon,
pourquoi vous aviez peur de
situation inversée?
Je voulais dire, inversée. Je me suis retrouvé à la place de Philippe Noiret avec un jeune mec qui était un peu connu parce que les Bronzés étaient déjà sortis. Et moi avec
Et là, il vous a regardé. Ryan Bensetti vous a regardé comme un patriarche. Nos empas.
Mais on est devenus
manger au catering avec vous.
Non, il était très gentil. Il mettait pas la musique trop fort quand je faisais la sieste. Très gentil.
Et Noiret vous a accueilli avec bienveillance.
Pareil. C'était, on a commencé à discuter. On est devenus potes instantanément. C'était vraiment chouette.
En 2001, mais qu'écoutez Thierry Lhermitte.
Ah, la compile.
Non, non, c'est la musique. C'est la musique qu'il a demandé à Jacques Chirac à l'Élysée pour recevoir là.
Ah non, c'est ça, c'est dingue.
Le 26 mars 2001, voilà, vous êtes fait chevalier de la Légion d'honneur par Jacques Chirac pour votre engagement auprès des enfants trisomiques.
Ouais. Ça, et puis le truc que j'avais fait pour le Téléthon, ça s'appelle Décrypton, voilà, donc c'était bien sympa, c'était rigolo de voir Chirac s'extasier à chaque personne qu'il connaissait pas, évidemment, c'était toujours rigolo.
Dire que Chirac était un peu Alzheimer, quoi.
Non, mais je connaissais même pas le nom des joueurs d'équipe de France de football, on se souvient de cette espèce de playback raté, lorsque la foule entière du Stade de France criait le nom des joueurs et qui ne faisait que bouger la bouche pour faire croire qu'il le connaissait aussi.
J'avais un gros sentiment d'imposture, donc je flippais, j'avais pris un gros Lexomil avant de d'y aller.
Ah oui. Entier ou un quart?
Mais pourquoi?
Entier.
Mais pourquoi?
Bah non, parce
que... Qu'est-ce que vous risquiez, entre guillemets?
Non, rien du tout. Il y avait un bon buffet et tout, c'était sympa. J'avais acheté la médaille et tout, c'était rigolo, voilà.
Ah, on achète la médaille?
Ouais. Ah oui, oui.
Ah bah, la paye.
C'est comme pour
on paye la médaille, c'est marrant.
Ou...
Je la mets pas souvent, mais c'est pour mettre sur le cercueil. C'est très bien, c'est très bon.
Non,
sur le petit coussin.
Le petit coussin.
L'humour noir de Thierry.
Il faut acheter le petit coussin aussi.
Non, il faut acheter sa propre médaille pour qu'elle soit remise.
Non, on n'est pas.
Vous l'avez acheté en tout cas, la
montre. Oui, je l'ai acheté quand même. D'accord. Montre à mes enfants.
Et est-ce qu'il faut la demander? Est-ce qu'il faut candidater?
On dit non. Pas du... Peut-être on peut candidater, mais enfin, moi j'ai un.
On peut demander à des amis de candidater pour vous. Voilà.
Moi, c'était.
Il y en a qui le font. Ouais. Mais sinon, c'est une surprise.
C'est une surprise, ouais. On vous demande si vous l'acceptez néanmoins.
Ah, voilà.
Oui, tant qu'à faire.
Donc ça, moi, on dit ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas, ça ne se porte pas.
Il y a plein d'artistes qui l'ont refusé cette. Et des auteurs, je pense à Jacques Prévert, qui l'a refusé.
Une phrase de La Rochefoucauld que j'aime bien, c'est « Refuser les honneurs, c'est vouloir se faire féliciter deux fois
». Joli.
Vous voyez pas ? Moi,
c'est ça, ouais. C'est bien vu.
Je souscris.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route. Que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route.
Brassens composait toutes ses chansons au piano.
Quoi ?
Eh ouais.
Alors je ne savais pas.
Au piano,
si je peux me permettre,
c'est un pianiste.
Ah bon ?
À savoir que je suis né en 96. Donc on m'a demandé une chanson 96, donc j'ai passé à la chanson de mon enfance et on écoutait celle-là, on apprenait celle-là à l'école.
À Montpellier, vous écoutiez ça, et en plus, Georges Brassens,
c'est toi.
Totalement.
Oui. Mais alors oui, c'est la naissance 96 à Fabregues, je crois.
Je suis né à Montpellier, j'ai grandi à Fabregues.
Et voilà, c'est ça. Oui, on peut pleurer 96. Oui, c'est vrai que tout d'un coup, ça fait un petit peu mal.
Il est né en 96.
Oui. C'est-à-dire que deux ans après, on gagne la Coupe du Monde. Enfin, je fais les références au foot pour pas vous perdre. Enfin, c'est pour ça.
Ah, c'est pas ça. C'est déjà trois ans que j'ai.
Bébé. Ouais. Tu vois, on avait le permis.
Trois ans que t'étais en retraite.
Non. C'est un ratata, salaud.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Chahine, de parce qu'on vous connaît pas, de votre univers à la maison, est-ce que voilà, la littérature, la musique, c'était quelque chose de présent, c'est des choses qui sont venues avec le temps
C'est venu avec le temps. Je suis né à Montpellier avec un grand frère, j'ai eu un petit frère un peu plus tard. Et puis voilà, non, la musique, la littérature à l'école, j'ai eu des bons professeurs, des bons maîtres d'école en primaire qui m'ont fait découvrir la chanson française comme avec Brassens.
Quant à vous, Assia, à ce moment-là, vous alliez plutôt en boîte.
Oui. Au collège,
non, vous n'allez pas en boîte. Trop jeune pour y aller, pas le droit d'y aller.
Pas le droit, en cachette.
Mais on est tous. Non,
12 ans à venir,
c'est
bébé. Bah oui.
Vous n'avez pas 12 ans en boîte.
Non. À 14, ouais, je commençais.
C'est vrai.
Si, ouais, en cachette. Je disais que j'allais à la danse.
La Rousseau, tu m'oublieras. On l'écoute un tout petit peu plus, même si on est sur Inter.
Oh.
J'adore.
Je pense que c'est Madeleine pour toute une génération. Ouais.
Elle est sur son deuxième album. Un petit peu en droit d'auteur.
Je la sentais au collège. Mmh.
Elle est sur son deuxième album, je crois.
Oui.
Son deuxième titre. Non.
C'est le troisième aussi, je crois.
Attention en anglais.
Ah, c'est par cœur. Tu sais que tu as bien
vu les paroles.
C'est pas très compliqué non plus.
Yeah, yeah, yeah. Alors on est
en tout cas,
99,
titre prémonitoire.
Ouais. Hein. Oui. Arrête, c'est
moche. On t'embrasse.
On est en 99, Zia. Et pour vous, c'est votre premier rôle. C'est dans Note sur le rire, oui. Un téléfilm de Daniel Lossé, qui avait été diffusé sur France 3. C'était une véritable envie d'être comédienne. C'était
oui, un rêve. C'était plus un rêve parce que honnêtement, je pensais pas que ça allait se réaliser. Et vraiment, c'était un rêve. Et d'ailleurs, quand j'écoutais cette chanson, je rêvais de cinéma. Quoi.
Vous étiez à Marseille à ce moment-là ?
Oui, Marseille, quartier nord, et on chantait ça en bas de la tour, au collège, partout dans le parc.
Et comment vous avez eu ce rôle ?
De lequel
ce petit rôle dans Note sur le rire.
En fait, j'ai répondu à une annonce de figuration dans un journal qui s'appelait Le 13 à l'époque, qui n'existe plus.
Gratuit.
Oui, gratuit, qu'on recevait dans la boîte aux lettres. Et du coup, c'était pour de la figure. Et après, le réalisateur, il m'a donné quelques phrases à dire.
Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça précise qu'il faut oser rêver.
Ah oui,
et pas se dire,
rêver.
Parce qu'on est dans tel ou tel quartier ou dans telle ou telle ville, c'est pas pour moi, c'est un autre
rêver.
Monde, c'est un autre milieu.
Oui.
Non, faut juste provoquer un peu sa chance aussi,
oui.
Non ?
Il faut rêver, espérer, et voilà, et pas répondre à n'importe quoi aussi, il faut faire attention.
Il
ouais.
Y a des pièges.
Oui, je dis aux jeunes qui m'écrivent parfois, j'ai attention.
Ça vous est arrivé ?
Oui.
Milieu des années 2010, Shahin Boumedine, vous écoutiez. Retour à Marseille.
Comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, parce que de notre côté obscur.
Ayam avec l'Empire du côté obscur, donc c'est Frédéric Siris qui viendra également. N'oubliez pas les paroles, faire Ayam.
Quelle parolier.
C'est bien écrit.
Ah ouais, les textes sont formidables. Ouais.
Et vous, Shahin, vous êtes à Montpellier, toujours, et cette fois-ci, vous êtes au lycée, où vous passez un bac technologique. Alors, j'ai tout le détail. Hein. Spécialité génie civil.
Alors, c'était architecture et construction.
Ah bon, c'était pas les bonnes infos.
Tout le détail.
Bon, et faites la modification, parce que ça va vous suivre, sinon, pendant toute votre carrière, okay. Vous savez.
STI 2D, architecture et construction.
D'accord.
Votre rêve était à l'époque de faire quel métier ?
Quand j'étais plus jeune, au début du lycée, architecte, vraiment. Et ensuite, je me suis dirigé...
Architecte de maison ou
de
bateau ?
De maison.
D'accord.
Et je me suis dirigé vers les travaux publics pour faire du génie civil, du gros œuvre.
Des ponts et
ça,
des viaducs
ça.
Et tout ça. D'accord.
Et vous avez mis un peu de côté vos études, du coup, pour le tournage du film ?
Tout à fait. J'avais fait une année de BTS, et on m'a contacté l'été entre mes deux années de BTS. Donc, j'ai foncé.
Et donc, ça veut dire que dans votre tête, c'est quoi maintenant ?
Ouais.
On reprend quand même les études pour avoir un petit matelas au cas où, ou on se lance dans le cinéma ?
Est-ce qu'il y a des ponts entre le cinéma et le
gros œuvre ? Oh joli !
Non, à fond, maintenant, je fonce dans le cinéma, et puis les études...
Tant pis,
balèque.
Si besoin, j'y retournerai.
Les parents le prennent bien, ça ?
Ouais, bah ils m'ont toujours suivi, ils m'ont soutenu. Ouais. Donc.
Ils ont vu Mektoub
non plus.
My Love ou pas ?
Pas encore, non. Ce soir.
Vous avez...
C'est vrai ?
Ouais, vous avez...
Vous avez le trac de connaître leur jugement ?
Non, ça va.
Ça va, c'est-à-dire vous êtes
non,
sûr que
non,
ça va leur plaire ?
Ouais, je suis sûr.
C'est le moment où jamais je suis sûr que ça va parler.
Papa, maman, je suis sûr que ça va vous plaire.
Vous écoutiez dans ces années 2010, Afsia.
2010. Ça passe tellement vite.
13, 2013.
2013,
ouais. C'est vrai.
C'était Pharrell Williams.
C'est moi moche et méchant. Il avait proposé cette chanson à CeeLo Green, l'un des deux membres de Niers Barclay, qui a dit non, c'est pas bon ça, je refuse, je chante pas, je veux pas chanter pour un dessin animé. Pharrell Williams, ne trouvant pas de chanteur, a dit bon, je vais la faire moi. Voilà.
C'est beau.
Et on vous retrouve à vous à cette époque-là.
Je danse en même temps.
Dans la marche, ce film de Nabil Ben Yadir avec Jamel Debbouze. Oui. Et vous rencontrez François Hollande, je crois, dans une scène.
Oui.
Vous avez rencontré François Hollande
dans
La République En Marche, qu'est-ce que c'est
que ça ? Il nous a invité à l'Élysée pour le film. Il nous a reçus à l'Élysée pour le film parce qu'on a tourné une scène à l'Élysée. Et c'est super, franchement. Ils nous ont accueillis et tout, c'était top.
Il avait du temps.
Ça vous a impressionné quoi, de se retrouver face au président ?
Oui, c'était à l'Élysée. Enfin, c'était très impressionnant.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Et bien sûr, vous êtes bien sur France Inter, mais vous serez encore mieux après Les Bétons. C'est pas de lui, mais il le reprend très très bien. C'est Grand Corps Malade.
J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis s'est approché de moi et m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grand coup de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mecton, les pas bidons. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Je vais faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, je te chouraverai ton blouson, moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. T'as le même blue jean que James Dean, t'arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Pour trouver une chute rigolote.
C'était Laisse béton, la reprise de Renaud par Grand Corps Malade. Et en parlant de Grand Corps bien, bien malade, est-ce que ce serait pas celui de Jérémy Crédville qui arriverait là par hasard tout de suite maintenant? Ah si, tiens, c'est lui.
Eh, vous savez quoi les amis?
Quoi,
on est au deuxième jour du printemps. Ouais, c'est bon de rire. Aujourd'hui, 21 mars, c'est la journée mondiale des forêts. Je salue donc tous les ragondins qui nous écoutent. C'est également la journée mondiale de la trisomie 21. Je salue donc tous les ragondins trisomiques qui nous écoutent. Mais c'est aussi, bah quoi? Mais c'est aussi la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Salue donc les ragondins trisomiques de toutes les couleurs. Bref, le 21 mars, c'est encore la journée mondiale de la marionnette. Et les marionnettes... c'est rare. Oui, je sais, c'est poétique, ça tombe bien, parce que c'est aussi la journée de la poésie. Il y a 9 journées dans une. On est également mercredi, anciennement jour des enfants, ou jour des encombrants, c'est selon. Alors, ne confondez pas enfant et encombrant. Non, parce qu'à un moment de votre vie, vous vous direz, oula, ça, je crois que je vais le jeter. Et si le déchet râle, c'est un enfant. Il ne faut pas se tromper. Pour les uns, il faut les laisser la veille au soir sur le trottoir pour s'en débarrasser. Pour les autres, les déchets de chantier ne sont pas acceptés. Dans les deux cas, il y aura toujours un mec chelou dans un utilitaire pour s'y intéresser.
Je crois savoir...
Ça existe. Je crois savoir sans me tromper que tout le monde autour de cette table a déjà été enfant, je crois.
Ouais, oui, quelque part, oui.
Oui, certains comme Nagui ont tellement aimé cette période qu'ils en ont gardé la taille. Pour d'autres, comme Albert ou Daniel, paix à son âme, c'est un souvenir bien vague. Et d'autres encore, comme Leïla, m'en réclament une portée. Moi, j'ai la nostalgie de l'enfance, hein, cette époque formidable où je pouvais téter une femme sans qu'elle ne porte plainte. Maintenant, on ne m'applaudit plus quand je fais pipi au pot. Et bon sang que j'aime ça, les applaudissements. Hein. Parce que quand ils pensent, les applaudissements, c'est des bifles avec les mains. Pardon, France Inter, poésie.
Non, non, c'est des mifles.
Oui, des mifles, des moufles, bref. Enfant, la polygamie était tolérée par tous, vraiment. Et on pouvait rester 3 mois avec une fille sans coucher avec. Ouf, c'était si facile. On était en couple à partir du moment où on se donnait la main. On avait une maîtresse. On était même 30 pour une maîtresse, donc on chopait des maladies en même temps. Ma mère, c'était ma rebouteuse, hein, moi elle me soignait avec un verre d'eau sucrée. On invitait des copains à dormir à la maison sans qu'on nous traite de pédé. On jouait au papa et la maman n'avait jamais mal au crâne. On courait à la récréation, on savait pas pourquoi, mais on courait. Dans les magasins de chaussures, on courait aussi pour voir si nos baskets allaient vite, vraiment. Hein, et on était payés quand on perdait une dent.
C'est vrai.
On était payés quand on perdait une dent, c'est vrai. Moi aujourd'hui je perds un chicot, ça me coûte 2000 balles.
Ouais.
Et c'était une petite souris qui venait dans ton lit, ça ne posait pas de problème, vraiment. Tu fouais dans un lit, normal. Il te manquait une dent de devant, tu souriais à tout le monde. Bah, à cette époque, on s'en foutait de tout. Pas de goûter, crotte de nez. Enfant, On était persuadés qu'un vieil obèse en rouge pouvait passer par la cheminée. Ou qu'un mec qui nous balançait du sable dans les yeux, ça nous faisait dormir. J'ai essayé hier soir de me mettre du sable dans la gueule, ça pique, vraiment. Enfant, tu n'as pas de filtre. Pourquoi t'es grosse, madame? Et pourquoi ta bouche, elle sent comme ton cucu, monsieur? Vraiment, tu es pas fou. Enfant, un prince qui embrasse une fille dans le coma, c'est pas un viol. Ton prof de science préféré, c'est Mac Lesguy. Alors que Mac Lesguy, c'est quand même le mec aux bonjours les plus étranges au monde. Bonjour! T'as l'impression qu'il te vomit son B. Bonjour! Bref. Puis ça se dégrade. Tu deviens ado, ton âme d'enfant se barre en même temps que ta voix. Tu te rends compte, avec stupeur, que finalement tes règles ne sont pas bleues. Qu'on t'a menti sur plein de trucs, hein, que les adultes n'ont pas toujours raison. L'innocence perdue, tu deviens bête, dans le sens animal du terme. Tu sens un peu plus des aisselles. T'es entre deux âges, pas encore jeune adulte, mais déjà vieil enfant. T'as toujours des petits bonheurs, hein, du genre quand ton prof meurt, ou qu'il vient en cours avec une télé. Et puis, tu deviens adulte et tu te rends compte que dans la télé que t'avais piqué à ton prof, il y a le même animateur que quand t'étais petit. Et là, tu te dis, merci Nagui.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Antoine dit tout bas, on dansait.
T'écoutais France Inter, non?
Ouais,
bah,
attends, après ça se corse un peu. Mais dans les années 90.
Alors, c'est très France Inter, on est d'accord. Hein. Ah bah, ouais. Dominique.
22 bars, c'était ma passion. Et tout cet album d'ailleurs.
Et le nouveau, Toute l'attitude, il est magnifique.
Ouais. Magnifique. Voilà. J'adore Dominique. Ouais.
Camille, au milieu des années 90, vous êtes, vous, au conservatoire, 7e arrondissement, je crois.
Oui, exactement.
Vous avez suivi également une formation au théâtre du Rond-Point.
Oui, tout à fait.
Et c'est là que vous avez quand même rencontré des gens assez sympas en intervenant, quoi, qui vous ont un petit peu guidé sur la suite.
Ah ouais, exactement. Puis c'était chouette parce qu'on faisait trois spectacles dans l'année au théâtre du Rond-Point. Donc c'était super bien. On était direct dans le métier,
très professionnel, tout de suite.
Ouais, exactement.
Et quel était le répertoire de prédilection pour vous? Qu'est-ce qui vous attirait le plus déjà?
On faisait beaucoup de théâtre contemporain, mais alors voilà, c'était des gens, Marcel Maréchal et tout ça, François Bourget et tout, qui nous orientaient plutôt vers vraiment des trucs. On travaillait Topor, on travaillait plein de pièces, mais vraiment des années 60, 70, 80, du théâtre contemporain en fait. Beaucoup de théâtre contemporain.
Et ça vous plaisait, ça?
Ah ouais, beaucoup. Ouais, c'était super.
Et les rôles qui vous inspiraient le plus?
Et on a bossé Brecht aussi. Les rôles qui... Tout m'inspirait, moi. Je découvrais, donc franchement, je découvrais, quoi. Tout m'inspirait, j'étais hyper contente.
François-Vincent Tilly, lui, écoutait plutôt Bruxelles, de Dick Hanegaard.
J'arrivais à Paris.
Ah oui.
Je te rejoins bientôt, aussitôt.
Je crois que vous l'avez choisi parce qu'il s'appelle Dick.
Magnifique reprise d'Angèle aussi.
C'est joli ça.
Dick Abuche. Elle me
soupçonne. Ah oui, j'arrive en 93 à Paris, j'écoute ça.
Faudrait que t'écoutes la version que Bachung avait chantée de Bruxelles dans Taratata.
Ah oui,
ça te donne la chair de
Bruxelles.
Bah oui,
ah bah oui, d'accord. Tout simplement, mais je le vois corse.
Bah oui, mais je suis né en Belgique.
Vous vous installez à Paris, je crois que vous êtes tout jeune, vous avez 25 ans, même pas.
Ouais, 23.
Ouais, et tout de suite, vous avez un agent.
Oui.
Comment vous faites pour tout de suite avoir un...
C'est marrant parce fait, c'est Dominique Besnéard qui m'a
repéré.
Ouais, en fait, il faisait un colloque sur le métier d'agent à Bruxelles et j'ai un ami qui m'a appelé et dit: ah, il y a Dominique Besnéard, je ne savais pas qui c'était. Il y a Dominique Besnéard, c'est l'agent de Depardieu, de Deneuve. Il faut absolument. Donc j'étais avec un CV, une photo à ce truc. Vous pouvez poser des questions à la fin. Et j'ai levé mon bras, j'ai dit: écoutez, je suis sans doute un des meilleurs acteurs belges
du moment,
donc je pense que ça serait intéressant pour vous de me prendre. Donc ça l'a fait un peu marrer, et puis je lui ai filé mon CV, puis je l'ai appelé tous les jours pendant deux semaines, et sa secrétaire, Yakuta.
Il vous a donné son numéro, donc?
Non, j'ai appelé Armédia. Il était chez Armédia, et j'avais Yakuta, sa secrétaire. Non, il n'est pas... Ah non, pas de problème, je rappellerai. Et un jour, un dimanche... Allô, c'est Dominique. Voilà. Et il m'a dit, bon, alors, c'est quand vous venez à Paris? Je ne savais pas. J'ai dit, je regardais un peu le 9 et le 10. On mettait 3 heures pour venir à Paris. Et je suis arrivé à Paris, je la fais courte. Hein. Je suis arrivé à Paris, donc au bout de 3 heures, j'ai rendez-vous dans son bureau, il était là. Mais c'est déjà Atlant, mais c'est beaucoup d'argent, c'est Isabella Gianni. Bon, j'étais là, très, très, très impressionné. Et puis il m'a dit, j'ai pas le temps de vous recevoir.
Ah merde. Ah.
Et donc il m'a dit, attendez, on se voit demain, et puis on a bu un café, et puis il m'a dit, je vous promets que je viendrai vous voir jouer en Belgique, et il est venu me voir jouer. Et après, il m'a fait rentrer chez Armédia, chez Michel Feller, bref, qui est devenu producteur maintenant de 10%, tout ça.
Dans les années 2005-2006, François-Vincent Tilly, vous écoutiez
50
Cent. Vous êtes bien sur France Inter.
Pardon, on est en 2005 et François, vous êtes à l'affiche de Bunker Paradise.
Ouais, film de Stéphane Liberski, c'est... Hein,
et vous incarnez, je crois, un chauffeur de taxi.
Un chauffeur de taxi. Oui, alors parce que je vous la fais courte aussi, mais en fait, Stéphane Liberski
est un
ami et je lui ai raconté une vraie histoire qui m'est arrivée quand j'avais 18 ans. J'étais dans une famille bourgeoise, mais pas extrêmement riche, et j'étais tombé amoureux d'une jeune fille qui était, elle, la fille d'un grand promoteur immobilier extrêmement riche. Sa grande question, par exemple, pour aller à Saint-Tropez où ils avaient une maison, c'était est-ce qu'il prenait l'hélicoptère de la gare de Nice ou le train. Mais le train, c'est sympa parce qu'on fait des rencontres. Enfin, elle avait reçu pour ses 18 ans la dernière BM.
Oui, mais train privé quand même.
Ouais, et donc, et moi, j'avais découpé dans le journal local, dans le Vlan, un journal belge, j'avais découpé parce qu'on avait le droit à un cocktail gratuit dans un certain restaurant si on découpait le cocktail. Et j'avais invité au restaurant et j'avais sorti mon petit coupon. Ben, j'avais 18 ans et c'était moi qui étais dans la normalité. Donc j'ai raconté cette histoire parce que j'ai rencontré ensuite son frère qui, en me regardant, a dit à sa sœur, je savais pas que tu sortais avec des Arabes. J'étais extrêmement choqué. C'était d'une violence sans nom. Ouais.
C'est fou.
C'était un espèce de grand nazi blond. Ouais. Et donc, en racontant cette histoire, on a fait ce film Bunker Paradise que je vous invite à voir parce que c'est Jean-Paul Rouve qui joue le rôle de ce grand nazi blond.
C'est l'histoire de l'amour impossible avec une femme riche, quoi.
Avec une femme riche. Ouais. Et qui me font croire que je fais partie de leur milieu. C'est une sorte de dîner de cons, mais ouais, plus gore.
Vous êtes
que
un jouet,
Je suis un jouet au milieu, ouais, et ils sont là, oh là là, attends. Et en plus, c'est quelqu'un qui veut être comédien, donc je sors à un moment cette phrase que j'ai déjà sortie quand j'avais 20 ans. Je ne veux pas être connu, mais je veux être reconnu dans mon métier, ce qui est touchant et qui est une jolie phrase, qui est vraie, mais qu'il faut pas dire. Et je l'ai dit, et là, il y a Rouf qui fait, oh, écoutez, ça c'est merveilleux, tu veux être reconnu dans ton... Mais en fait, t'as envie d'avoir des gonzesses, des piscines, comme tout le monde, t'as envie d'être...
Et voilà. Camille, dans ces années 2005-2006, vous écoutiez, Camille Chabou.
Je n'ai qu'une philosophie.
Bien sûr.
Accepter
comme je suis. Quelle semaine. Oui, parce que hier, j'ai écouté. Moi aussi, j'ai écouté.
Je suis métisse, mais pas martyr. C'était ma passion, cette chanson. Le poids levé, viser la lutte. Non,
pas viser l'anus, viser la
tête. Attends,
n'oublie pas le temps, j'ai oublié.
Je suis là, c'est pas le roi. Non, pas encore.
Ah, bah
encore.
Alors,
pas encore.
Non. Vous validez?
C'était une passion, ma philosophie.
Forcément.
Je bloque, c'est pas grave.
Attention, le refrain. Capuchin.
Viser la lutte. Ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'en ai encore et au cœur des sacrifices.
Des sacrifices. Quoi?
S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait.
J'en ai déjà fait.
Mais toujours le poing levé.
Yes.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, vous êtes vraiment, vraiment bien dans la bande originale, mais je sens que vous serez encore mieux après Charlotte Gainsbourg et Sylvia Seize. C'était Sylvia Saïs de Charlotte Gainsbourg dans la bande originale. Mais je me disais, tiens, si on écoutait Tanguy Pastureau. Et le voilà, et en plus il s'intéresse à Facebook. C'est fou la vie, non ?
Par exemple, vous y avez une page suivie par 79 000 personnes, soit 79 000 de plus qu'il y en a sur celle des gens qui aiment Benoît Hamon ou la pizza à l'ananas, qui ont le même nombre d'abonnés, 4. Leïla a, elle, une page perso, avec en profil une photo où on ne la reconnaît pas du tout, ce qui est normal puisqu'il s'agit de la photo d'un chat. La différence entre les deux étant que Leïla ne fait pas sa toilette avec la langue, ce depuis Noël 2015, quand son oncle lui a offert une parure gants de toilette, serviette éponge. Quant à Guillermo Guise, notre ami, il a 6000 abonnés sur sa page, dont Doc Gynéco qui, sous tous ses messages, écrit « Mon pote, passe me voir. Dans ma chaussette, j'ai un produit qui peut te faire parler beaucoup, beaucoup moins vite. Peace !» Bref, Facebook, c'est formidable. On regarde des vidéos de chats en train de pioncer sur des téléviseurs. Seulement, depuis l'avènement des écrans plats, ils tiennent 6 secondes avec l'écran dans les fesses avant de chuter. Et on envoie le lien à des amis qui, eux non plus, n'ont rien à foutre. Retraités, chômeurs, fans de Mike Brandt, militants à Debout la France. Hier, désœuvré, j'ai posté sur Facebook une vidéo de chat en train de présenter le JT. Mes amis m'ont dit « Mais t'es con ou quoi, c'est Leïla ?» À cause de sa photo de profil, j'arrive plus à distinguer les deux. Un samedi, chez Truffaut, je me suis mis à hurler « Mais vous n'avez pas le droit de la foutre en cage, c'est une collègue !» Juste à côté de Laurent Delahousse, en plus. En fait, il s'agissait d'un chat et d'un Yorkshire super bien toiletté. Sinon, à part pour visionner des vidéos d'animaux à la con alors qu'on pourrait être en train de lire Proust ou au moins Peyot, Facebook n'a pas d'utilité, puisque qu'on peut à 90% de gens en rogne qui insultent des gens furieux, qui traitent d'autres gens de fachos, lesquels disent que tout est de la faute des journalopes, qui pondent 14 papiers dès que Bertrand Cantat publie un faux sur Facebook. La sagesse voudrait donc qu'on fasse comme en Chine, où Jinping, le tyran local, que nous on appelle président parce qu'on fait du business avec, lit les commentaires et dit celui-ci on coupe, celui-là on coupe. Quand il dit on coupe, il parle de la personne qui a posté le message. Mais nous on a Macron qui joue les types dynamiques mais qui en fait est aussi mou qu'une glace de boule dégustée en plein soleil à Dubaï par un émir en sandales. Et la démocratie, ce système insensé qui nous empêche d'avoir un leader couillu en train de pêcher des dorades torse-poil en Sibérie, nous rend faibles, Nagui.
Donc Facebook impose maintenant ses propres règles en France.
Mais oui, c'est une entreprise privée mondialisée. Donc pour eux, en France, nous sommes quatre pleupleux en train de renifler des caldos en se disant que les bodins, ça c'est de l'humour. Du coup, notre identité, notre passé, ils s'en tapent comme l'Ohana de son premier Lexomil. Et là, Facebook vient de censurer La liberté guidant le peuple, cette œuvre de Delacroix où on voit des gens sur des barricades avec un jeune tenant deux guns, hein, c'est le Booba de l'époque, et des types étalés par terre pleurant leur mère ou leur père s'ils sont issus d'un couple gay ayant procédé à une GPA, mais vu l'époque c'est peu probable. Et au milieu de cette faune qui fait penser à ce que serait Alexis Corbière s'il renonçait à passer à la télé et avait du temps pour faire la révolution, il y a une Marianne seins nus, Marianne qu'on a longtemps vue sur les billets de 100 francs. Hein, moi chez Jouet Club, quand j'achetais des Playmobil, je tendais ce billet à la dame en refusant de le lâcher parce qu'à l'époque c'était ma seule chance de voir des seins. Hein, il n'y avait pas YouPorn, notre référent érotique c'était le billet de 100 francs. Parfois lors d'un braquage on chopait les mecs parce qu'au lieu de se tailler ils se caressaient dans le coffre-fort devant une grosse grosse liasse. Alors c'est un artiste qui a posté l'image de l'œuvre. En fait il en a fait une publicité pour son spectacle. Un quart d'heure plus tard Facebook l'a effacé car disent-ils les publicités avec nudité sont interdites. Ils ont embauché Francky Vincent, lui font sentir un soutien-gorge, il frétille, bave et en une heure est capable d'identifier 4000 photos de seins. Mais le souci, Zuckerberg était sbire timbré, c'est que là, on n'est pas sur de la playmate qui se lèche le bas du téton pour faire triper le chauduc. Delacroix, c'est de l'art. Interdire la nudité en général, ça équivaut à mettre sur le même plan Zaya et Manet. Marc Dorcel et Gustave Courbet, l'origine du monde a aussi été censurée par Facebook. C'est ce tableau où on voit en gros plan qu'en 1866, le rasoir vide sensitif n'existait pas. Dès qu'il y a du nu, Facebook censure. Alors que les seins, les fesses, les pénis, les vagins, c'est très commun. On en a tous. Qu'on ne se montre pas là parce qu'il n'est que midi 15, mais donnez-moi deux mojitos, ça va pas être la même histoire. Le Louvre à Abu Dhabi ne nous prend pas les nus. Facebook non plus. À part des toiles d'Yves Klein qui peignaient que du bleu, nos notre art ne va convenir ni aux religieux coinsos, ni aux californiens pudibons. Donc on va se retrouver avec juste la Joconde, plus 600 000 toiles représentant des oui-oui, qu'on pourra plus montrer au musée parce que le corps, c'est mal. Les mecs sont à deux doigts de greffer des bras à la Vénus de Milo juste pour qu'elle se cache les seins. Sur Facebook, les seuls poils qu'on peut voir sont ceux des chats. Hein, le retour au Moyen-Âge est orchestré par des boîtes du Nasdaq censées être hyper modernes. Aux gens de Facebook, j'adresse donc ce midi un gros pouce vers le bas.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
C'est ma préférence ce morceau.
T'aimes la musique, toi.
Non, mais...
Attends, écoute, écoute.
Bande de malpropres. Écoutez, premier degré.
Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser.
Avec un personnel de mer.
Oui.
En fait, il s'embrouille avec ses salariés.
Il règle ses comptes par la chanson.
Il a perdu un procès.
Elle est géniale.
Sur, tout, sur le tournage de Mauvaise Herbe, on la mettait tous les jours, celle-là.
Qui a vraiment trop fait chier.
Il est exceptionnel.
C'est
quand même un mec. C'est, il est censé.
Il est très premier degré.
Il est premier degré. C'est la seule chanson où il y a de la haine dedans. Je peux l'écouter.
Mais la tonalité change pas.
C'est ça. C'est un zouk de haine. Mais les paroles sont tellement sales. Mais oui, c'est du zouk hate. C'est tellement d'avoir perdu un procès, de rentrer chez soi.
Et
même
si
c'est qu'on fait un zouk, il fait pas un slam ou une poésie. Il dit, je veux quand même rester dans le zouk, on me connaît là-dedans.
Mais remets-moi l'instru de la passion.
Écoute le refrain.
Dans mon établissement, j'avais des crevures. Il ne pensait pas
et salir. Et les insultes pendant 4 minutes. C'est génial.
C'était un rêve à réaliser.
Avec les choristes, t'es sûr, Francky? Avec un personnel de merde, ok, c'est génial.
Comment elle s'appelle celle-ci?
Francky Vincent, le restaurant.
Le restaurant, Francky.
Elle est magnifique.
Je suis obligé de faire un big up à Sébastien Follat et Aline Afanoukoé, oui. Parce que c'est notre chanson préférée.
C'est vrai, le restaurant aussi?
Ah bah celle-ci, surtout, c'est Aline Afanoukoé qui nous l'a fait découvrir avec Fred.
Ouais. C'est un classique d'Inette.
En fait, on l'a baptisé le restaurant, mais ça s'appelle Droit de réponse.
Droit de réponse, bien sûr.
Officiel auprès de
la Et à la fin, ce qui est génial, c'est qu'il répète le refrain, mais donc c'est des insultes, mais il les répète en souriant et au son de la voix. T'entends qu'il a envie de mettre des patates. Tu sens qu'il est au bout. Le dernier couplet est extraordinaire.
Qu'il en a mis. Hein.
En termes de haine, le dernier est fou.
Et en 2011, Kéron, vous êtes sur les planches au théâtre Montmartre.
Bah oui, vaut mieux
qu'en
dessous. Oui,
bah oui, on dit ça.
Sinon, t'es entre les quatre planches. Oui, oui.
Oui, d'accord.
Mais le bordel. T'as insisté sur le sur.
Sur les planches, absolument, pour le bordel club. C'est le bordel club.
Ouais, on a créé avec plusieurs potes humoristes une scène de liberté totale où on savait pas ce qu'on faisait. On était tellement à la rage quand ça a commencé. C'est une salle de 80 places. Chacun devait ramener 5 personnes. C'est vraiment chaque humoriste. Et si tu n'es pas que 5 personnes, t'avais pas le droit de jouer. Parce que t'avais pas fait ton travail de com. Donc c'était vraiment la dèche. Et on a commencé comme ça, ouais.
Avec Kian Kojandi notamment. Puisqu'on
avec Kian,
vous
ouais,
retrouve
avec Arsène, Kian, Navo, Sanaka, Farid. Ouais, ouais. Plein. Ouais. Je les cite parce que.
Ouais, t'as public jeune, hein.
Ouais.
Et on vous retrouve ensuite dans Bref. Dans Bref, ouais. Dans 5 épisodes, je crois.
Ouais.
Et l'obsédé, là, moi,
c'est l'obsédé
ouais. Qui parle pas.
Le pote de Kian qui parle pas, ouais, effectivement. Ça me suit encore aujourd'hui, ça, c'est incroyable. Ouais. Il y a des gens qui me disent.
On pourrait faire un truc parce que c'est vous le. C'est vous dans Bref.
Non,
ils
mais
disent là, c'est
ils
ça
disent ça, ils me disent Bezla toute la journée, ouais. Il y a des gens encore qui sont bloqués sur.
Mais c'est vrai que ça a marqué.
2011, c'est ouf.
Ça a marqué. Ça, ouais. Bizarrement, c'est pas resté si longtemps à l'antenne, ouais. Mais ça a été culte.
Ouais, c'est pour nous, c'était étrange parce que moi, j'étais en vacances pendant la diffusion du premier. Et c'était à l'époque du. Il y a un volcan qui avait un truc.
En Finlande.
C'est celui-là, ouais.
Islandais,
ouais. Islande, ouais, j'ai un truc du coin.
J'étais coincé à Djerba, du coup, je te vénère.
Mais ça n'a aucun sens. Non, c'est pas la même distance.
Non, et ça a été dit à ce moment-là. Et quand on est rentré, je me rappelle que, genre, mon Facebook, il avait quadruplé. Il y avait je sais pas combien de personnes qui s'étaient rajoutées. Et je savais pas que Bref était passé. Et naïvement, je me suis dit, mais ça y est, ça prend enfin.
non.
Et là, je me rappelle, vraiment, même pour nous de l'intérieur, c'était fou. Comment c'est. Bah, toi, t'en faisais partie, Charlotte, t'as vu le.
Tu parles de Bref, là?
De Bref, ouais.
Non, moi, j'en fais pas partie.
Si, hein. T'étais dans un épisode.
Oui, dans le dernier épisode.
Dans le dernier.
Ouais, assume.
C'est vrai, t'étais dans le dernier, c'est vrai.
On m'a vraiment appelé en tout dernier pour dire, bon, comment on vient.
T'étais dans le dernier, c'est vrai, excuse-moi.
Mais jupe.
Bah, vous, c'est fait un kiff, ouais. Il m'a mis en robe.
C'est vrai, ouais.
Mais, l'inspiration de Kian et du personnage, parce que vous avez une image de dragueur pour lui?
Non, parce qu'en fait.
Si?
Oui.
Si je peux me permettre d'intervenir. complètement.
Moi, je suis marié, je me suis rangé, j'ai rangé les crampons et tout. Je suis en un dernier match. Allez, champion. Non, mais en fait, je fais partie de ces gens qui pensent, bon, l'époque prête pas à ça, mais je pense qu'il faut.
Quand il y a du gazon, il y a match. C'est vous qui l'avez dit dans votre spectacle.
Avec le doigt.
Il a rangé le crampon.
C'est toi, hein. Bon. Non, mais je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut oser dire aux gens qui nous plaisent. Voilà, que s'il y a une femme qui passe dans la rue, il faut oser aller lui parler.
Gentiment.
Voilà, il faut pas être lourd, il faut oser. Parce que peut-être qu'il y a la femme de votre vie qui passe sous votre nez et c'est bête de passer à côté. Donc, et moi, j'étais quelqu'un qui osait dire aux femmes, tu me plais, toute la journée.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Stop, stop. On arrête tout, place au lol, place au rire. Ou presque. Guillermo Guiz.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Alors bon.
Salut.
Quoi?
Pendant assez longtemps, j'ai cru que.
Ça fait une demi-heure qu'on se parle.
Pendant assez
longtemps. Bonjour, bonjour maintenant.
On peut pas commencer le film. Laisse-le.
Merci en tout cas, c'était.
Moi je vous écoute.
Merci
de
pour moi.
Moi je vous écoute.
Ah, mais voilà, je voulais vous dire que pendant longtemps j'ai cru que la vie n'avait aucun sens. Et puis Netflix est arrivé en Europe et ça va beaucoup mieux. Avant, pour combler le vide, je me disais, ah, je vais être obligé de faire un enfant et tout. Et alors ça me faisait peur à cause des dépenses et tout et un peu des germes. Mais là, hop, 12,50€ et je peux attendre la mort bien à l'aise. Et je dois vraiment conduire personne au judo et tout, c'est vraiment cool. Ils sont vraiment forts les requins. Ceci dit, Netflix c'est le top. J'adore Netflix, leurs catégories elles sont vraiment chouettes. Genre suspense insoutenable. Série violente et tout. Série internationale palpitante. Vraiment, ils ont des trucs comme ça. Moi, je suis pour qu'ils aillent un cran plus loin encore dans la franchise. Genre, série internationale où tu te fais un peu yèche sur les 7 premiers épisodes, mais si tu t'accroches après, franchement, ça devient bien. Ou genre, série policière régionale imaginée par France 3 pour les vieilles personnes qui mettent des napperons sur leur téléviseur et qui ont envie de voir Michel Simès dans un rôle secondaire. C'est et sur Netflix, si vous voulez, le carton absolu du moment, c'est une série espagnole qui s'appelle La Casa de Papel.
J'adore, formidable.
Saison 2.
Merde, parce que ça parle d'un braquage hyper spectaculaire à la maison de la Monnaie de Madrid organisé par un mec brillant qui se fait appeler le professeur, et qui est en fait un remake du thriller norvégien Det Kristelig Urkløt qui avait été présenté à l'époque au festival du film semi-muet de Monte Carlo, et qui avait quand même chopé le prix 7LM du public payant, qui reste le fait d'arme
du public payant,
le fait d'arme de la carrière de Kjell Jari Ullberg. Non, c'est pas vrai. J'avais envie que Leïla s'intéresse à mon billet. Mais non, en fait, vous aimez bien. C'est dingue, La Casa de Papel. Non, dans le registre action braquage, je préfère Maigret. Mais bon, ça, c'est Maigret, c'est le max. Bruno Kremer, c'était vraiment c'était le totus. Ouais, au moins, il faisait ses cascades lui-même et tout. Ça, il trichait pas, Bruno. Quand le réalisateur disait action, Bruno, il oubliait tous ses problèmes avec le fisc et tout. Il montrait sur sa Harley. Et Bruno Kremer et Lorenzo Lamas, c'était vraiment deux mecs à l'ancienne, quoi. Jamais un mot plus haut que l'autre avec les femmes. Mais tu vois, s'il y avait une bagarre sur un parking, ils étaient.
T'as pour oublié, revenir à la Jean-Richard.
Jean-Richard, c'est votre époque, Nagui. Excusez-moi.
C'était le premier Maigret.
Ouais. Ça rend hystérique la Casa de Papel. Les gens ils deviennent fous et tout pour une fiction en espagnol. Alors que honnêtement l'espagnol c'est quand même une langue un peu disgracieuse. Tu vois, Puerta, Chocho, Guillermo Guiz, ça agresse, non? Tu vois, c'est un truc. L'espagnol ça donne envie de crever dans un chorizo. Vraiment, c'est pire que l'urdu. Et c'est pas du racisme. Hein, vraiment, vous savez, moi j'ai un lien fort avec l'Espagne.
Bah oui,
via mon grand-père maternel qui n'était pas l'homme mais qui était un des bras droits de Franco. Franco grande époque. Franco grande époque. Attention, 52-64, bien avant toute cette histoire de démocratie, blabla. Il faut faire comme tout le monde. Et je dis pas que tous les étrangers doivent. Pour revenir à La Casa de Papel, je crois qu'on est tous un peu fascinés par le personnage du professeur, le mec qui t'organise un braquage d'une complexité inouïe, tout paraît simple. Moi, une fois dans ma vie, j'ai essayé d'organiser un anniversaire surprise. Après 9 secondes, c'était plus une surprise. Alors, si je devais organiser un braquage, je trouverais jamais l'adresse de la banque. Vraiment, ce serait horrible. Et, il est génial ce personnage. Quand vous voyez le professeur, il donne littéralement cours de braquage à son équipe. Vous avez vu, ça a nagué dans le truc. Et on a tous envie d'être dans cette classe, quoi. Mais c'est ouais. Vrai, quelque part. J'en parlais avec Jean-Michel Blanquer. Un mec qui me disait, ouais, c'est ambitieux, mais c'est pas infaisable. C'est vrai que c'est un fléau le décrochage scolaire finalement. Si tu mets des cours de criminalité à l'école, t'as plus un élève en retard, ma main coupée, quoi. Ça pourrait être sympa, non? T'arrives à la rentrée, tu vois ton nouveau prof et tu dois deviner quel cours il. Ah, Jean-Marc Morandini, ça c'est quoi? Et ben alors, pour revenir à La Casa de Papel, si ça marche, c'est que ça joue sur un fantasme. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait accès à la planche à billets finalement? Qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait créer de l'argent? Moi j'achèterais Neymar, je pense, et je lui ferais faire des chroniques dans la bande originale pour voir s'il a encore du talent. Ouais, facile, etc. Faire le mec technique et tout. Mais en brésilien, on va voir s'il fait marrer les gens. Vraiment, c'est d'ailleurs le seul bémol que j'ai par rapport à la série. Je veux dire, pour accéder à 2,4 milliards d'euros, c'est con de prendre des risques et tout, d'aller prendre des gens en otage. Alors que si tu demandes gentiment à Nagui et qu'il est dans un bon jour et qu'il a du cash sur lui, ça fait 2,4 milliards pour lui. Enfin, bref, c'est la longueur de la série moi que je trouve c'est le bémol. Ça, je trouve les 40 premières heures sont sympas. Après, tu risques un peu le ménage au coq. Vraiment, 19 épisodes pour un braquage, ça maigrait, il te le fait en 4, quoi. Vraiment. Enfin bon, j'aime quand même bien. Allez, ciao.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Tiens, d'un seul coup, j'ai envie de parler football. Alors, ok, c'est sympa la Ligue 1, mais la Ligue des Champions, c'est quand même mieux, hein. Il la représente tellement bien. Frédéric Sigrist.
Bonjour à tous. Alors, on est jour de grève.
Et c'est vrai que tu les testes bien, tes convictions de gauche, hein, pendant une grève. Non, mais pour
tu
moi, c'est comme décider de faire le jeûne alors qu'on t'annonce qu'il y a un buffet à volonté au KFC. Ah, tu testes ta résistance mentale. Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, les cheminots, de ce que certains Français font pour eux en ce moment. Moi, par exemple, je suis un héros pour la SNCF. Ils devraient donner mon nom à un train. Moi, quand je signe une pétition de soutien aux cheminots sur Internet, sincèrement, j'exagère pas, hein, c'est un peu comme si je donnais un rein. Parce qu'il n'y a rien de plus facile qu'être solidaire de la grève quand t'habites Paris intramuros, que t'es à 20 minutes à pied de ton lieu de travail. Ah, t'as pas de mérite, grosso modo, dans un déménagement, t'es celui qui porte le carton de coussin. Moi, je suis celui qui se tape le frigo à monter au 5e, sans ascenseur, et pas vider le frigo, hein, bien entendu. Moi et ma femme, on habite à 1 heure de Paris. Si vous voulez, la SNCF, pour nous, c'est devenu notre mère. Hein, on peut pas sortir de chez nous si elle nous a pas donné la permission. Donc quand j'ai découvert ce calendrier des grèves, c'est comme le calendrier des postes, sauf qu'à la place des chatons, il y a des trains qui avancent pas. Eh ben, j'ai pris une grosse inspiration, toi. Je me suis dit, non, te laisse pas aller à la colère, Frédéric. Hein. J'avais l'impression d'entendre l'empereur dans Star Wars.
Fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
Sauf que chez moi, il avait la tête d'Emmanuel Macron. Pense à la privatisation des autoroutes, Frédéric. Pense à la privatisation des télécoms. Résiste ! Prouve que tu es gauchiste ! Du coup, je me suis dit qu'il fallait anticiper. Et vu que la grève commençait mercredi à 21h et que mon spectacle se terminait à la même heure, je savais que je pouvais pas rentrer chez moi. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais me payer l'hôtel. Et puis je me suis souvenu que je bossais à France Inter et que j'avais 2 enfants, donc pas les moyens d'aller à l'hôtel. Et c'est là que le directeur du théâtre où je joue m'a dit, bah, tiens, t'as qu'à venir dormir chez moi. J'ai pas mon fils cette semaine. Et c'était extrêmement gentil de sa part. J'ai immédiatement accepté, sauf que son fils, il a un format d'enfant standard et le lit qui va avec. Hein, c'est-à-dire 170 sur 80. Autant dire que quand tu fais 1m83 et 110 kilos, le lit, tu l'entends se plaindre avant même d'être dessus. Hein. Je pense que si le lit, il avait pu parler, il m'aurait tout avoué. Ah, j'ai été construit dans telle ou telle série, boîte traitée ou non. Ma peur, franchement, c'était de me réveiller le lendemain matin et d'avoir absorbé le lit. Non, en plus, le matelas, mon pote me dit, c'est un matelas mémoire de forme. Je me dis, mais le pauvre gosse, désormais, quand il va récupérer son lit, il va dormir dans un puits. Alors, j'ai bien évidemment dormi comme un sarkozyste en garde à vue, hein, c'est-à-dire mal. J'ai fait tout un tas de rêves très étranges, remplis de contrôleurs qui venaient me demander le titre de transport, s'il vous plaît. Et moi, je vais vous le représenter, ça suffisait pas, ils m'en demandaient toujours plus, fiche d'état civil, quittance de loyer, échantillon d'urine, un autographe de Nagui. Horrible rêve, horrible.
Cauchemar.
Puis, voilà, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que pour cette journée, bah, j'allais errer dans Paris parce que je peux pas rentrer chez moi en attendant l'heure de mon spectacle ce soir. Hein, même avant l'émission, je me suis assis sur un banc, hein, comme ça, je regardais les gens fatigués. J'ai téléphoné à ma famille histoire d'entendre la voix de mes enfants qui peuvent pas non plus aller à l'école parce que et ma femme qui peut pas travailler non plus parce que voilà. Et ils m'ont demandé mais s'il faisait beau où j'étais, hein, parce que c'est loin désormais, hein, de là où j'habite, 1 heure de Paris, c'est plus possible. J'ai pleuré, je leur ai dit que Paris était une ville très étrange où tout était plus cher. Ces gens sont fous. Ce soir, je vais retourner dans le 18e et le directeur m'a déjà envoyé un texto ce matin, juste avant l'émission. Il m'a dit problème, ce soir, Frédéric, ils sont 7 dans la salle. Je dis, mais comment ça? Hier, ils étaient censés être 75. Elle me dit, oui, mais à cause de la grève, ils ont préféré annuler. Bref, le train-train quotidien. Donc, vous savez quoi, ami cheminot? Vous avez intérêt à le garder, ce statut. Vraiment, je vais me battre pour ça. Et même à avoir une augmentation. Et puis, une fois que tout sera fait, vous avez sacrément intérêt à venir voir mon spectacle. Parce que n'oubliez jamais que c'est dans l'adversité qu'on voit sur qui on peut compter.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est terminé pour aujourd'hui. Un meilleur de BO réalisé par l'excellente Marie-Annick Rimbaud. Je vous retrouve demain, même endroit, même heure. En attendant ce rendez-vous, Holidays, on a déjà
volé des nuits. On a déjà foulé l'ennui. Sans s'ennuyer, toucher les cimes. On a déjà frôlé l'ultime. On a déjà vu la couleur. Thank you.
sera toujours moins bien que ça. On a déjà vu la couleur, c'est ce qu'on pourrait devenir. On a déjà posé des fleurs, alors on cherche déjà les voir. Ce qu'il y a à redire sur ce foutu bonheur. On a déjà vu.
C'était le meilleur de la bande originale que vous pouvez retrouver demain dès 11h pour la dernière émission estivale. À suivre le débat de midi, Didier Siamour vous pose cette question aujourd'hui: faut-il vendre les logements sociaux?